France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des sauveteurs qui sillonnent les plages 365 jours par an. Première européenne dans les Landes à partir d'aujourd'hui en raison des nouveaux usages. On se baigne désormais toute l'année. Explication à suivre. Nous serons à Copenhague dans les prochaines minutes. Sommet européen de la défense sous très haute surveillance. À Munich, menace d'attentat contre la fête de la bière. Au Maroc, avec de violentes manifestations hier soir, mouvement de contestation des jeunes. À suivre encore l'intelligence artificielle de plus en plus gourmande. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Gourmande en électricité.
Oui, les centres de données nécessaires à son fonctionnement en consommeront en 2030 trois fois plus qu'en 2023, avertit le Shift Project, une électricité parfois très émettrice de gaz à effet de serre, dénonce le think tank qui appelle à réguler le secteur.
A tout de suite pour vos précisions. Nous verrons que le Premier ministre Sébastien Lecornu écrit aux syndicats à la veille de leur journée d'action. Nous nous demanderons si Victor Wembanyama, star française du basket, a encore grandi, lui qui a 21 ans. Sans oublier les sorties cinéma de ce mercredi. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Jérôme.
Avec un couple mythique.
Oui, celui formé par Simone Signoret et Yves Montand au cœur d'un biopic signé Diane Curis, joliment intitulé « Moi qui t'aimais ».
Vos conseils dans quelques minutes. À partir de 13h30, le cofondateur du magasin bio en ligne La Fourche est notre invité. Lucas Lefebvre, 150 000 adhérents pour son entreprise et la promesse de trouver moins cher que partout ailleurs. Alors le bio à moindre prix, est-ce possible ? 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. 13h50, c'est la France. Un ex-président bientôt en prison. Bonne ou mauvaise nouvelle pour la démocratie ? Ce sera avec Eric Fotorino du 1 Hebdo. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La chanteuse Rosemary Stanley avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Cela se fait déjà en Australie ou en Californie, mais pas en Europe. Surveiller les plages toute l'année, même hors saison, eh bien, le département des Landes a décidé de s'y mettre. Dispositif unique en France qui entre en vigueur aujourd'hui. Bonjour Sarah Mansoura.
Bonjour.
Concrètement, ce sont des nageurs sauveteurs qui vont patrouiller, c'est
exactement.
Ça
Exactement. 24 ont été recrutés pour cette mission expérimentale qui va durer jusqu'à fin 2027. Ils vont, pendant les week-ends, les vacances et quand il fait beau, sillonner en équipe mobile trois secteurs définis dans le département, qui comprennent les 15 communes gestionnaires de baignades sur le littoral et les 10 autres sur les lacs. Le reste du temps, ils vont intervenir auprès de milliers de collégiens de 4e et écoliers de CM2. L'idée n'est donc pas de stationner sur les plages, mais de sensibiliser partout aux dangers spécifiques du territoire, comme les baïnes, également aux réflexes de secours. Cette présence sur le terrain sera assurée en 4x4, mais également à l'aide de jet-ski et de drones.
Parce qu'il y a désormais, Sarah, du monde toute l'année sur les plages.
Et c'est un changement majeur depuis une vingtaine d'années, particulièrement même ces 5 dernières années et la crise Covid. D'ailleurs, il n'y a pas que des baigneurs, précise Stéphanie Barnex. Elle coordonne la surveillance des plages pour le syndicat mixte des baignades landaises.
On a aussi des pratiquants d'activités nautiques. Il y a de plus en plus d'associations qui se créent. Il y a des pêcheurs, des marcheurs, des centres de loisirs qui vont le mercredi après-midi sur le littoral. C'est plus du tout la même fréquentation qu'il y a 20 ans. On a de plus en plus de gens qui s'achètent une combinaison. Des débutants en surf toute l'année, on a le longe-côte. L'idée, c'est plus de dire en novembre, on ferme. Non, l'idée, c'est de mettre des dispositifs adaptés à chaque saison.
Et tout cela, et c'est une aubaine pour les communes en manque de moyens, grâce au département des Landes qui finance le dispositif à hauteur de 70%. D'autres territoires maintenant se disent intéressés, Manche, Méditerranée et même Outre-mer.
Merci Sarah Mansoura. Là, il s'agit de surveiller les mers plus que les plages. Et c'est la mer Baltique qui est l'objet de toutes les attentions. Elle borde le Danemark, pays qui accueille aujourd'hui un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Il parle défense et menaces russes dans un pays qui était l'objet de nombreux survols de drones ces derniers jours. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
La flotte fantôme russe est suspectée de les avoir orchestrés. Vous allez nous dire dans un instant ce que c'est que cette flotte. D'abord, allons à Copenhague où se trouve notre envoyé spécial Fabien Cazot. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Les mesures de sécurité autour de vous sont impressionnantes. Racontez-nous.
Eh bien, c'est véritablement un dispositif international de sécurité qui est déployé ici, aux abords du château de Christiansborg, l'imposant palais royal en pierre sombre qui accueille aujourd'hui ce sommet européen. Des renforts militaires scandinaves, polonais, français, américains et même ukrainiens surveillent le ciel danois. Un navire allemand bien visible dans le port de Copenhague, tout radar déployé, surveille qu'aucun drone hostile ne tente une intrusion. Tous les vols de drones civils ont d'ailleurs été interdits ici pour la semaine. Le seul drone drone que j'ai vu ce matin, Jérôme, était un drone de la police danoise qui surveillait le quartier de Copenhague où se tient le Conseil. C'est dire à quel point les chefs d'État, dont Emmanuel Macron, qui est tout juste en train d'arriver, sont directement plongés dans l'ambiance. L'Europe ne laissera pas la Russie semer la division et l'angoisse, vient de déclarer la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Les discussions vont porter cet après-midi notamment sur cette idée de mur anti-drone poussé par les pays de l'Est les plus proches géographiquement de la Russie. Il sera également question de systèmes antimissiles, de défense de l'espace et de financement de l'ensemble de ces projets ambitieux, donc forcément coûteux.
Fabien Cazot en direct de Copenhague avec les moyens techniques de Benjamin Troncin. Alors ces drones qui ont survolé le Danemark ces derniers jours pourraient avoir décollé de bateaux, c'est ce que soupçonnent les autorités danoises, et ils feraient partie de ce qu'on appelle donc la flotte fantôme russe. Claude Guibal, de quoi s'agit-il ?
Alors en fait, derrière cette expression se cache un réseau de vieux pétroliers, souvent mal entretenus, qui changent sans arrêt de nom et de pavillon. Leur mission, transporter du pétrole russe essentiellement en contournant les sanctions internationales. 343 de ces bateaux sont officiellement répertoriés, mais en fait ils seraient bien plus nombreux. 316 au moins sont déjà sous sanctions de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou des États-Unis. Les sanctions, elles, datent de 2022, lorsque le G7 a mis en place un plafonnement du prix du pétrole russe, suivi par l'Europe et le Royaume-Uni. Objectif, réduire les revenus de Moscou sans priver le marché mondial d'énergie. Le truc de la flotte fantôme, c'est d'exploiter toutes les zones grises du droit maritime. Les bateaux naviguent sous des pavillons de complaisance, ils utilisent des sociétés écrans, transfèrent leur cargaison souvent en pleine mer et désactivent très très souvent leur système de suivi, vous savez, les fameux transpondeurs. Résultat, difficile de les localiser et les arraisonner en eau internationale est juridiquement très risqué, d'où les questions sur le bateau de la flotte fantôme actuellement sous surveillance au large de Saint-Nazaire, bateau suspecté d'avoir participé aux opérations de survol de drones au Danemark.
Explication signée Claude Guibal. Nous étions au Danemark il y a une minute. Allons maintenant en Allemagne, plus au sud. Vous y êtes notre correspondant. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour.
Un incendie suivi de plusieurs explosions ce matin dans un immeuble de Munich et les autorités qui décident de fermer la fête de la bière. 6 millions de visiteurs l'an dernier.
Oui, tout a commencé peu avant 5 heures ce matin avec des explosions dans un quartier résidentiel du nord de Munich. Des témoins racontent aussi avoir entendu des coups de feu. Sur place, les pompiers ont découvert une maison en flammes, une habitation piégée avec des bombes artisanales et à proximité, le corps d'un homme. Selon le quotidien Bild, il s'agit de l'auteur de l'incendie qui s'est donné la mort. Les autorités évoquent un conflit familial. Elles font le lien entre cet homme et une lettre de menace qu'elles ont reçue. Un courrier qui annonce une attaque à la bombe contre la fête de la bière. L'Oktoberfest, événement mondial et très fréquenté, 400 000 personnes étaient attendues aujourd'hui encore. Par précaution, le Theresienwiese, la place qui accueille l'événement dans le centre-ville, a été évacuée. La police fouille en ce moment le site, grand comme 60 terrains de football et qui restera fermé au moins jusqu'à 17h. Il y a 45 ans, l'édition de l'Oktoberfest avait été endeuillée par l'attentat d'un militant d'extrême droite. La bombe avait tué 13 personnes et fait plus de 200 blessés.
Sébastien Baer, en direct de Berlin. Quel point commun entre Katmandou au Népal, Antananarive à Madagascar et Rabat au Maroc. Toutes ces villes sont secouées depuis plusieurs jours par des manifestations de jeunes. Ils se revendiquent tous de la génération Z, née dans les années 2000. Ils dénoncent les inégalités et la pauvreté, mais aussi l'absence de perspective d'avenir. Et hier soir au Maroc, cette mobilisation a dégénéré dans de nombreuses villes avec des violences et des pillages. Récit Cédric Ralfi.
Des échauffourées à Oujda, mais aussi Inzgen, Bnimlal, Aïtamara, près d'Agadir, où forces de l'ordre et émeutiers se sont affrontés toute la nuit. Des dizaines de blessés sont recensés de part et d'autre. Des véhicules de police et de gendarmerie ont été incendiés et ce jeune percuté par un véhicule de police à Oujda. Le mouvement Gen Z de ce week-end change de ton. Il avait manifesté pacifiquement, mais les autorités ont répondu par des centaines d'arrestations.
Je suis un citoyen, pourquoi vous m'arrêtez ? Donnez-moi une raison.
La coalition gouvernementale s'est réunie en urgence et dit comprendre les aspirations de la jeunesse. Santé, éducation, corruption ou encore chômage sont au cœur des revendications pour cette jeunesse qui dénonce un Maroc à deux vitesses. Un paradoxe pour le politologue Nasser Gabriel.
Les manifestations qui ont eu lieu, c'est pour plus d'État. Ce n'est pas moins d'État, mais plus d'État. Aujourd'hui, pour ces nouvelles générations, ce sentiment de précarité, ce sentiment d'insécurité psychique, sociale, vient d'un besoin d'État. l'État semble faible.
Face à la réponse brutale des autorités, les jeunes ont décidé d'occuper le pavé. Tous les yeux sont maintenant tournés vers ce jeune manifestant percuté hier par une voiture de police. La wilaya de Oujda assure qu'il est toujours vivant. Casablanca, Sidik Ralfi, France Inter.
Deux conséquences de la guerre à Gaza. D'abord, cette annonce de la Croix-Rouge. Il y a un instant, la Croix-Rouge qui annonce être contrainte de suspendre ses opérations humanitaires à Gazaville. Et puis, autre annonce faite ce matin, le plus grand fonds de pension néerlandais, ABP, décide de vendre ses parts dans le groupe américain Caterpillar. Caterpillar, dont plusieurs enquêtes ont montré que les engins de chantier étaient utilisés par l'armée israélienne.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Quels seront les arbitrages du Premier ministre pour le budget 2026? Les syndicats appellent à la mobilisation demain, avec parmi leurs revendications l'abandon du recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, ou encore l'abandon du doublement des franchises médicales, ou l'abandon du gel des prestations. Eh bien, Sébastien Lecornu leur répond aujourd'hui. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Par courrier, il promet un geste pour la retraite des femmes.
Oui, dans un ton cordial qui témoigne d'une volonté d'apaisement évidente de la part du Premier ministre, où la CFTC notamment note l'effort inscrire dans le budget de la sécurité sociale des mesures pour mieux prendre en compte les carrières hachées des femmes avec enfants, celles discutées lors du fameux conclave. Ça ne peut être que positif. De même, lorsque Sébastien Lecornu, un peu plus bas dans son courrier, dit vouloir poursuivre les discussions également autour des enjeux de pénibilité et d'usure professionnelle, comment ne pas être d'accord avec ça? Mais les syndicats rappellent que ce qu'ils demandent, c'est à minima une suspension de la réforme de 2023, et surtout ce qu'ils attendent avant tout, ça reste des garanties sur ce qui n'apparaîtra pas dans le prochain budget, sur le gel des prestations sociales que vous évoquiez, Jérôme, sur le doublement des franchises médicales. Que fera le Premier ministre? Autant de questions qui restent sans réponse pour les partenaires sociaux et qui fait dire à Sophie Binet, la patronne de la CGT, que ce courrier pour elle relève du hors-sujet complet.
Maxime Debs, le Parti Socialiste, lui, sera reçu vendredi par le Premier ministre, qui tente aussi, et dans le même temps qu'il tente de désamorcer la colère sociale, tente de décrocher un accord de non-censure, et en haut de la liste du PS figure toujours la taxe Zucman, la taxe sur les hauts patrimoines. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
Et l'économiste Gabriel Zucman, qui porte cette proposition, tente de convaincre. Il est à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Oui, à l'invitation des députés insoumis, mais aussi devant le rapporteur général du budget, plutôt sceptique sur sa proposition d'un impôt plancher de 2%. Gabriel Zucman a d'abord rappelé tout à l'heure à quel point les grandes fortunes organisaient leur illiquidité en plaçant leurs revenus dans diverses sociétés. Certains sont techniquement pauvres, certaines fortunes sont techniquement pauvres, dit-il en ouverture du débat.
À tel point qu'une année, Jeff Bezos allait dire « Allez, je suis tellement pauvre que je vais demander les allocations familiales ». Il avait reçu les allocations familiales. Il n'y a rien d'illégal dans tout ça, mais ça montre juste que notre système fiscal ne parvient pas à imposer les plus grandes fortunes.
Alors, sur le risque d'exil fiscal, l'économiste est catégorique. Il est faible, son bouclier anti-exil permettra d'imposer celles et ceux qui voudraient partir pendant plusieurs années. Aucune faille juridique, dit-il. Autre risque pointé du doigt, celui de viser des patrimoines et des sociétés dont la richesse est encore théorique, liée à une valeur de marché. Le centriste Charles de Courson n'en démord pas.
Toute une série de situations avec une taxe Zucman à 2%, c'est confiscatoire.
Réponse de Gabriel Zucman, il suffit de vendre des actions, sortir les biens professionnels de la taxe serait absurde.
Exonérer les biens professionnels, ça voudrait simplement dire exonérer les milliardaires de l'impôt plancher sur les milliardaires. Ça n'aurait malheureusement pas grand sens.
Et derrière ce débat en apparence un peu technique, Jérôme, c'est aussi une discussion de fond sur l'enjeu démocratique. Pour le prix Nobel, Joseph Stiglitz, présent lui aussi, cette redistribution défaillante à ce niveau de richesse met en péril nos démocraties car il permet à ses fortunes de posséder des médias, de bénéficier d'un pouvoir démesuré car en capacité d'influencer le débat public.
Merci Claire Chaudière. La réponse de l'Union européenne aux taxes américaines sur l'acier. Les quotas d'importation d'acier vont être réduits de moitié. Et pour tous les produits importés en plus de ces quotas, les droits de douane fixés par l'Union européenne seront à 50%. La sidérurgie européenne alerte sur sa situation difficile depuis des mois. Nous parlions il y a un instant du mouvement de grève de demain. À Mayotte, il y a déjà des manifestations aujourd'hui devant plusieurs établissements scolaires de l'île de l'océan Indien. Car des centaines de professeurs, mais aussi des agents de l'éducation nationale, ne sont plus payés depuis des mois. 250 selon le rectorat, qui ne donnent pas l'origine du problème. Ils sont davantage, selon les syndicats. Situation qui ne peut plus durer, nous disent ces trois enseignantes de l'un des collèges de Passamonti, près de Mamoudzou.
On veut surtout un engagement écrit de la rectrice et nominatif pour que les gens ils aient une échéance, pour qu'ils sachent comment payer leur loyer, comment est-ce qu'ils vont faire pour payer leurs charges. Avoir ce poids sur le dos tous les jours et se demander comment je vais faire mes courses, comment je vais venir à l'établissement, parce que je n'ai pas de moyen de m'approvisionner en essence. À la banque, ils ne veulent pas savoir. Et puis nous, on envoie nos demandes au rectorat, on ne nous répond pas. On veut vraiment des réponses personnalisées et des salaires complets. Je pense que dans n'importe quelle autre académie, ce problème aurait été réglé rapidement. Mais ici, on est à Mayotte et à Mayotte, malheureusement, les choses ne fonctionnent pas comme partout. On a l'impression de ne pas être respecté parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi on vient travailler tous les jours gratuitement, bénévolement. Et aujourd'hui, on en a marre.
Des propos recueillis par Béatrice Duguet. La hausse continue des cas de chikungunya en métropole. Désormais 633 cas autochtones, c'est-à-dire des personnes qui ont été piquées par des moustiques tigres, mais sans se rendre dans une zone à risque. Elles étaient 570 la semaine dernière parmi les foyers qui comptent le plus de cas, plus de 70 cas en tout cas, Fréjus, Antibes ou encore Bergerac. En Seine-Saint-Denis, un mort et un blessé par balle la nuit dernière. Commune de Sevran, c'est un homme âgé d'une trentaine d'années qui a été tué dans cette commune. Un autre a été blessé par arme à feu. Le parquet de Bobigny indique que les premiers éléments de l'enquête conduisent à un homicide sur fond de trafic de stupéfiants. Elle veille à la bonne utilisation de l'argent public et la Cour des comptes, qui signe aujourd'hui un rapport salé sur les chambres d'agriculture, nous dit deux choses. D'abord, qu'il y a dans beaucoup d'entre elles irrégularité et dysfonctionnement, mais aussi que l'État, qui leur verse chaque année 600 millions d'euros, laisse faire. Et là, ce sont les préfets qui sont montrés du doigt. Cas d'école avec vous. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
C'est vous qui nous révélez ce rapport aujourd'hui. Cas d'école, le Lot-et-Garonne. La chambre y est dirigée depuis plus de 20 ans par le syndicat qui monte, la coordination rurale.
Oui, exactement. Et en fait, ce qu'on lui reproche, ce que la Cour lui reproche, c'est d'avoir fait construire, avec de l'argent public, une retenue d'eau illégale. C'est l'affaire du lac de Caussade. D'abord autorisée pour irriguer les terres alentours, puis interdit par la préfecture. Qu'à cela ne tienne, Serge Bousquet-Cassagne, homme fort de la coordination rurale, était alors président de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne.
Ce lac, on l'a fait. Et ça a été une formidable aventure humaine. Et vas-y, toi, sur un tombereau. Et vas-y, toi, sur un tracteur à 300 chevaux. Est-ce que vous imaginez ça par une autre profession que la nôtre? Ça n'existe pas. Si les flics avaient chargé, ils se seraient fait tuer. Vous m'entendez? Ils se seraient fait tuer pour défendre ce lac. Ça marque, hein? Et le lac, il est là. Ça, c'est une chambre coordination rurale.
Serge Bousquet-Cassagne a depuis été condamné, mais l'État n'a pas su effectivement s'opposer à la construction. Le lac est aujourd'hui en voie de régularisation. Selon la Cour des comptes, cette chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne cumule en fait une liste d'irrégularités importantes, déjà mentionnées dans un rapport dès 2024. Un président qui nomme son fils, agent comptable sans appel à candidature, une défiance vis-à-vis de l'État, des comptes qui ne sont pas justes et préfecture et ministère ont trop longtemps laissé faire. Il y a eu défaillance de la tutelle selon la Cour des comptes.
Explication et information signée Julie Pietri. C'est l'un des volets de l'affaire Sarkozy-Kadhafi qui va valoir à l'ancien président de la République une incarcération. Les familles de l'attentat du DC-10 du TA ont été reconnues par le tribunal comme victimes. Cet attentat 1989 avait fait 170 morts, dont 54 Français. Le beau-frère de Kadhafi, Abdallah Senoussi, avait été condamné pour cela. Bonjour Marion Aquilina.
Bonjour.
Et le tribunal a estimé la semaine dernière que les Libyens avaient cherché à annuler le mandat d'arrêt à son encontre par le biais de Brice Hortefeux et de Claude Guéant en leur versant de l'argent.
Oui, selon le tribunal, le pacte de corruption avec Abdallah Senoussi, l'auteur de l'attentat, porte atteinte à la mémoire des victimes.
On l'a vécu, mais comme un coup de poignard, quoi, et comme une injure faite à nos morts.
Daniel Klein a perdu son frère dans l'attentat.
On l'a ressenti, on ne dormait plus, on allait mal. Ça a eu une répercussion, il faut le dire, jusqu'à aujourd'hui.
Et cette reconnaissance de partie civile par le tribunal est particulièrement rare dans un dossier de corruption, selon Guillaume Denoy de Saint-Marc, directeur de l'Association française des victimes de terrorisme.
Nous avions notre place dans ce procès. Bien sûr que ce n'était pas le dossier de l'attentat, mais c'était un dossier dans lequel l'attentat était inclus par le fait qu'un futur président de la République proposait l'impunité à un terroriste. Mon père n'est pas mort pour une autre raison que parce que la Libye visait la France. Et que le futur président de la République s'assoie là-dessus est odieux.
Mais Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux ont fait appel. Il y aura donc un deuxième procès. Danielle Klein annonce qu'elle se constituera de nouveau partie civile.
On s'est quand même déjà tapé les Libyens, Kadhafi et Senoussi. C'est pas aujourd'hui que je vais avoir peur.
En première instance, le tribunal a prononcé l'obligation d'indemniser environ 80 proches des victimes de l'attentat du DC-10. 3000 euros pour chacun pour le préjudice moral.
Je vous ai parlé hier, ici même, des derniers développements de l'intelligence artificielle. On a parlé du cinéma. Bref, chaque jour, l'IA étend davantage ses usages et consomme de plus en plus d'électricité. Aujourd'hui, c'est le think tank du chercheur Jean-Marc Jancovici, le Shift Project, qui met tout cela en chiffres. Rémi Brancato, vous allez tout nous dire. La consommation électrique des centres de données qui sont nécessaires au fonctionnement de l'IA, les data centers, pourrait être multipliée par 3 en 2030 par rapport à 2023, si rien n'est fait pour la réguler.
Oui, une croissance, vous le disiez, qui est portée par les besoins de l'intelligence artificielle, avec un risque que l'électricité que nous produisons soit de plus en plus accaparée par ces data centers. En Irlande, c'est déjà 20% de l'électricité du pays qui nourrit ces centres de données. Le réseau sature à Dublin, pointe Hugues Ferbeuf du Shift Project.
L'opérateur électrique a indiqué qu'il ne connecterait plus au réseau électrique de data centers autour de Dublin tant qu'il n'y aurait pas eu de désaturation. Ceci n'a pas résulté du tout en fait en un arrêt de l'installation de data centers. Et aujourd'hui, on a une quinzaine de data centers qui ont fait une demande de raccordement direct au réseau de gaz.
Aux États-Unis aussi, c'est le gaz qui fait tourner beaucoup de nouveaux data centers. Résultat, davantage d'émissions de gaz à effet de serre, 9% en plus par an selon le rapport. Comme si on ajoutait l'équivalent de tous les élevages français sur la planète chaque année, dénonce Pauline Denis, co-autrice du rapport elle aussi. Et les pouvoirs publics en France ne fixent aucun objectif de décarbonation.
Tous ces travaux sur la France nous amènent à appeler à la planification de la transition énergétique de la filière en l'intégrant dans la stratégie nationale bas carbone 3. L'objectif, c'est que la filière centre de données ne compromette pas la décarbonation de l'économie.
Le rapport appelle à une IA moins gourmande et à questionner, voire se passer de certains de ses usages.
Rémi Brancato, le cinéma.
Le monde se divise en deux catégories.
Hasta la vista, baby.
Toi, tu creuses.
Splendid! Avec Alexis Demeyer. Rebonjour Alexis. Les sorties de ce mercredi avec vous. Et avant de parler du couple Simone Signoret, Yves Montand, qui est l'objet d'un biopic cette semaine, je voudrais qu'on écoute la voix de Simone Signoret. Extrait d'une interview, nous sommes au début des années 70. Elle parle de sa relation avec celui qu'elle appelle Montand.
Mais en 20 ans, tous les êtres humains ont plein d'occasions de se décevoir, de se faire du mal, de se réconcilier, de se disputer, de cesser de s'aimer, ce qui ne veut pas dire qu'on se haït, qu'on se hait. Bien sûr, mais en 20 ans aussi, c'est formidable de pouvoir se dire qu'on est passé à travers tout ça.
Voilà la voix de Simone Signoret et ses archives, Alexis, nourrissent le fil de Diane Curie, intitulé « Moi qui t'aimais ».
Dont voici un extrait.
Moi, je pense qu'on devrait faire un film sur nous, nos vies, nos engueulades. Ce serait très triste et très drôle.
Mais il continue à sauter sur tout ce
La voix de Marina Foïs qui interprète de manière très inspirée une Simone Signoret vieillissante devant lutter contre l'alcoolisme, la misogynie des producteurs et les nombreuses infidélités de son mari. Dans le rôle d'Yves Montand, Roche disait, mais lui en roue libre, c'est-à-dire que parfois ça passe et parfois ça casse, tant son imitation du comédien-chanteur flirte avec le grand guignol. Mais il y a en tout cas un joli souffle romanesque dans le film de Diane Curis qui avait déjà réalisé le biopic de Françoise Sagan. Ici, elle se concentre donc sur les 12 dernières années de ce mythique couple de cinéma qui ne s'est jamais vraiment remis de l'aventure de Montand avec Marilyn Monroe. Et puis de Trintignant à Reggiani en passant par Alain Corneau et bien sûr Catherine Allégret, c'est aussi tout le showbiz de gauche des années 70 que l'on retrouve dans Moi qui t'aimais. Bref, un biopic vintage, un peu chargé certes, mais parfois drôle et souvent émouvant.
Autre biopic, Cervantes avant Don Quichotte.
C'est le grand réalisateur Alejandro Amenábar qui signe ce film historique et littéraire. Nous y découvrons l'auteur de Don Quichotte avant l'écriture de son roman phare parmi les plus lus au monde.
Miguel de Cervantes Cortina.
Su historia.
L'intrigue se déroule à Alger au XVIe siècle. Pendant 5 ans, Cervantes y est en effet emprisonné après avoir été capturé par des corsaires. C'est là qu'il affine son art de la narration pour divertir ses co-détenus, mais aussi pour séduire son geôlier, le pacha Hassan Veneziano, ouvertement bisexuel. Le film n'est pas dénué de longueur et souffre d'une esthétique parfois indigeste, mais son intérêt patrimonial est indéniable et donne terriblement envie de lire ou de relire le chef-d'œuvre de Cervantes.
En salle également, Happy End Mind, science-fiction à la japonaise.
Dans un futur proche à Tokyo, l'intelligence artificielle, encore elle, devient une alliée de poids pour les dirigeants d'un régime autoritaire et intrusif. Mais une bande de lycéens espiègles est bien décidée à mener la fronde. À la fois film de campus et dystopie technologique façon Black Mirror, Happy End est une satire féroce de la société japonaise et de sa tendance à corseter sa jeunesse. Pour son premier long métrage, le jeune réalisateur Neo Sora affirme un style engagé et impertinent, prouvant une fois encore la belle vitalité de la nouvelle école du cinéma made in Japan.
Quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis ?
Un simple accident, bien sûr. La dernière Palme d'Or, qui a récompensé fort logiquement en mai dernier à Cannes, ce thriller iranien signé Jafar Panahi, A Big Bold Beautiful Journey, une comédie romantique avec Margot Robbie et Colin Farrell, et Marche ou Crève, un film d'horreur américain adapté d'un roman du King de l'épouvante, Stephen King.
Merci Alexis Demeyer. J'ajoute qu'on a appris ce matin que l'acteur Jim Carrey allait recevoir un César d'honneur
mérité
lors de la prochaine cérémonie. Ce sera le 27 février. Je sais que c'est l'un de vos acteurs fétiches. Et puisque j'ai très envie de vous faire plaisir aujourd'hui, ainsi qu'aux auditeurs, je voudrais qu'on parle de basket. Avec cette question qui nous taraude depuis quelques jours, on va parler de Victor Wembanyama. C'est l'un de nos meilleurs joueurs. Il joue en NBA. Il a donné de ses nouvelles en début de semaine. On est à quoi, 3 semaines maintenant,
oui,
du début du championnat NBA. Et Wemby nous dit la chose suivante: je mesure désormais 2m24. La dernière mesure, il y a un an, annonçait 2m21. Alors, est-ce que c'est un problème de mesure ou bien est-ce qu'il a grandi? Bonjour Victor Delande.
Bonjour.
On avait besoin du spécialiste santé de la rédaction pour répondre à cette question épineuse. Peut-on toujours grandir à son âge, à 21 ans?
Alors normalement non, on ne grandit plus à 21 ans, bientôt 22 pour le basketteur français, sauf que Jérôme, dans toutes les règles, forcément il y a des exceptions,
ouais.
Exactement. On peut donc continuer à prendre quelques centimètres jusqu'à 25 ans, explique Agnès Linglard, professeure de pédiatrie à l'hôpital Bicêtre Paris-Saclay.
C'est qu'il y a une vraie croissance qui a continué parce que les cartilages de croissance sont encore ouverts, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont encore la capacité de grandir. Et ça c'est très très rare. C'est même très exceptionnel, hein. Ce sont des situations qu'on rencontre vraiment pas souvent.
Alors ce qu'il faut bien comprendre, Jérôme, c'est que la taille c'est un sujet essentiel en NBA. Les franchises ont eu d'ailleurs tendance à recruter des joueurs très grands ces dernières années. Une croissance à prendre tout de même avec des pincettes parce qu'il existe parfois des écarts entre chaque mesure, assure Jean-Charles Delagarde, médecin directeur national de la Fédération française de basket.
Ils ne sont pas toujours mesurés dans des conditions constantes. Et il y a aussi les biais de mesure. Hein. On ne sait pas toujours comment les toits sont réglés. Après, il faudrait avoir le détail de son dossier clinique, à quel moment il a fait sa puberté. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent dans les déterminismes de la croissance.
Vous l'aurez compris, sans le dossier médical complet de Victor Wembanyama, impossible d'être certain à 200% qu'il a bel et bien grandi. Reste 2 certitudes. 3 cm de plus n'auront pas d'impact sur son jeu, m'assurent les spécialistes du basket. En revanche, l'idée même qu'il puisse encore grandir peut-elle continuer d'effrayer un peu plus ses adversaires.
Merci Victor Delande. Combien vous mesurez-vous, Victor ?
1m90.
Et a priori, c'est définitif.
Non, c'est fini, c'est terminé.
Merci pour vos explications. C'est une dernière danse pour Gaël Monfils, le tennisman français, 39 ans. Il annonce aujourd'hui que la saison 2026 sera sa dernière sur les courts. Il faut dire que cela fait 21 ans qu'il est sur le circuit, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à partir de 13h30, nous parlons bio, achat en ligne et consommation avec Lucas Lefebvre. Il a cofondé il y a 8 ans l'enseigne La Fourche. La promesse est la suivante: vous livrez du bio chez vous à moins cher. Comment la tenir tout en étant rentable, tout en limitant les émissions de CO2? 01 45 24 7000 pour vos questions et pour être avec nous. 13h45, on continue de déguster la pizza dans notre feuilleton avec notre camion ambulant qui sillonne le département des Vosges. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Éric, la condamnation d'un ancien président de la République.
Eh oui Jérôme, je vais m'interroger sur les conséquences symboliques d'une telle décision sur la confiance dans nos institutions.
Et avec vous Frédéric, une chanteuse.
Rosemary Stanley qui est en concert toute cette semaine avec la violoncelliste Dom Lanena au Théâtre du Rond-Point à Paris. Et avec elle, Jérôme, c'est du folk que nous écouterons. La chanteuse américaine Peggy Seeger.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
En France, les fruits et les légumes frais bio, on les mange à toutes les sauces.
à l'apéro, en salade, en flan, en brochette ou encore en smoothie quand on a fini toutes les brochettes. Bref, en France, on aime tout ce qu'il y a de plus bio. C'est bio les fruits et légumes frais.
Crédit Agricole présente...
Gérant d'entreprise, la facturation électronique devient obligatoire en 2026.
Et allez, une contrainte en plus. Tu crois qu'on a le temps, nous, les entrepreneurs? Eh ben non, on n'a pas le temps, on a le temps de rien. Plus le temps pour nos enfants, plus le temps pour le yoga.
Mais non, Fatia, on va en gagner du temps. Avec l'électronique, en un clic, fini.
Avec Collecto du Crédit Agricole, n'attendez pas pour passer à l'e-facturation et gagnez jusqu'à 5 heures par semaine sur votre gestion. Étude réalisée en 2024 sur 100 utilisateurs réalisant 30 factures par mois. Détails sur collecto.fr.
France Inter, partenaire du Sommet. Une pièce mise en scène par Christophe Marthaler du 3 au 9 octobre à la MC 93 Bobigny et les 10 et 11 décembre au Gémeaux à Sceaux dans le cadre du Festival d'automne. Christophe Marthaler réunit 6 interprètes de différentes nationalités pour un sommet inattendu où se mêlent humour, musique et théâtre. Une série de situations décalées à la découverte des chemins de la rencontre humaine, souvent drôle, toujours sensible. Le Sommet, un spectacle France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Globalement, c'est très ensoleillé.
Effectivement, le soleil domine sur la majeure partie du pays. Un soleil qui est tout de même partiellement voilé entre les Ardennes, le bassin parisien, la Touraine et le Limousin. Ce voile est même assez épais entre les Hauts-de-France et la Normandie, ce qui atténue l'impression lumineuse. Le ciel est aussi parfois un peu plus partagé sur l'ouest de la Bretagne et entre le Grand Est, le Massif central et les Alpes du Nord. Mais les éclaircies vont être de plus en plus belles cet après-midi. En revanche, les conditions sont instables sur le sud de la Corse et entre les Alpes du Sud et la Côte d'Azur. Et il faut composer avec des averses, averses qui pourront être localement orageuse en Corse du Sud, sur l'ouest de la Provence et le Languedoc-Roussillon, ainsi que dans la vallée du Rhône, le Mistral et la Tramontane favorisent eux un ciel tout bleu. Et puis après un début de journée un peu frais, les maximales seront voisines des normales de saison, variant de 16 à 22 degrés sur la moitié nord, avec 20 degrés pour Paris et pour Brest. Plus au sud, on attend 18 à 24 degrés, jusqu'à 27 degrés autour de la Méditerranée, avec 23 degrés pour Toulouse et pour Marseille. A noter qu'avec le ciel dégagé de la nuit, les minimales risquent d'être assez basses demain matin, notamment sur le nord-est.
Couvrez-vous donc demain matin. Merci du conseil. Sébastien Léas.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Peut-on manger bio sans se ruiner? Peut-on développer une entreprise en France? Peut-on inventer de nouveaux modèles de consommation sans en passer par le hard discount? Toutes ces questions sont terriblement d'actualité. Nous les posons à notre invité du jour. Bonjour Lucas Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous avez cofondé en 2018 le magasin bio en ligne La Fourche. Vous en êtes le directeur général. 150 000 adhérents, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires visés cette année, 250 salariés. Et vous venez d'annoncer, pour vous financer, une levée de fonds de 31 millions d'euros. La dernière, espérez-vous, avant que votre entreprise ne soit rentable. 01 45 24 7000. Pour tous ceux qui veulent vous interroger, qu'ils vous connaissent ou pas, qu'ils soient consommateurs de produits bio ou pas, bien évidemment, vous pouvez aussi passer, vous en avez l'habitude, via l'application Radio France. Lucas Lefebvre, vous nous présentez le principe. On s'abonne d'abord à La Fourche, c'est une soixantaine d'euros par an, avant de faire ses courses pour des produits qui sont censés être moins chers, produits bio, qui sont censés être moins chers que ceux des concurrents, c'est ça?
Absolument, donc ça fonctionne vraiment avec un système d'adhésion et c'est ce qui fait notre spécificité. Il faut bien comprendre que quand on achète quelque chose sur Internet, à peu près 20% du prix que vous payez tombe dans la poche des GAFA. C'est un peu la taxe du digital, la taxe de la publicité digitale. C'est un petit peu comme un magasin qui va payer un loyer pour avoir accès à une zone de chalandise. Et donc nous, en fait, comme on a un système d'adhésion annuel, que les gens restent plusieurs années, on va payer de la publicité une seule fois pour faire venir les gens sur le site. Ensuite, ils sont convaincus, ils restent plusieurs années. Donc on réduit cette ponction des GAFA de 20% du prix de ce que vous payez à 4-5%. Et en fait, l'économie qui est réalisée, les 15%, on les reverse à nos adhérents sous forme d'économie. Donc on se présente un petit peu comme les Robins des Bois des temps modernes. En fait, on va éviter la taxe des GAFA pour la reverser aux consommateurs français.
L'argent que vous ne mettez pas dans la pub sur le web, vous le mettez dans des marges plus faibles, c'est ça l'idée ?
Exactement.
Vous livrez partout en France ?
On livre partout en France, en Belgique, en Allemagne et en Autriche.
C'est le même prix que je sois dans le centre-ville de Lyon ou dans un village en Savoie ?
Tout à fait, c'est le même prix partout en France et en fait il y a en moyenne 25% d'économies, jusqu'à 50% d'économies sur les produits qui sont vendus à La Fourche. Ces économies sont calculées par des études indépendantes, hein. On fait des panélistes qui font des mesures de prix partout en France. Et donc en moyenne, nos adhérents économisent 400 euros par an en faisant leurs courses chez nous plutôt que dans un magasin.
Mais vous livrez, je suppose, à partir d'une certaine quantité.
On peut se faire livrer 10 euros de produits, 5 euros de produits. Par contre, la livraison est gratuite à partir de 70 euros de commande.
À partir de 70 euros. Donc, il faut faire des grosses commandes pour que ce soit rentable. C'est cher, le transport.
Le transport, c'est cher. Et c'est justement pour ça qu'on pousse un petit peu les gens à faire des plus grosses commandes. Et puis, c'est aussi plus écologique. C'est moins de camions qui se baladent. Et là-dessus, d'ailleurs, hein, c'est intéressant de regarder que quand on a monté la fourche avec mes associés, on voulait vraiment créer un système vertueux du début à la fin. Donc, on a regardé l'impact carbone de la livraison. Et on s'est rendu compte que se faire livrer ces produits, en fait, c'est moins d'impact carbone que de les acheter dans un magasin. C'est un peu contre-intuitif.
Il y a moins de carbone utilisé quand vous m'amenez mes produits chez moi.
Exactement.
Vous pouvez m'expliquer ça ?
2,8 fois moins d'impact carbone en se faisant livrer par la fourche qu'en allant acheter ces produits en magasin. Pourquoi ? Parce que votre magasin, en fait, il passe par une centrale d'achat qui est souvent unique en France. Donc, les produits du magasin sont livrés de la même manière que de l'entrepôt de la fourche à un point relais de la poste. Et ensuite, toute la différence, c'est le dernier kilomètre. Comment vous vous déplacez au magasin et comment on va vous livrer jusqu'à chez vous. Un camion de livraison, il va prendre 100 colis, il va faire une tournée, donc il va optimiser sa tournée, tandis qu'il va y avoir souvent la moitié des consommateurs qui vont se déplacer en voiture, donc c'est des trajets individuels, ça augmente la facture énergétique. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que même si vous vous déplacez en vélo ou à pied dans votre magasin, c'est mieux de se faire livrer. Pourquoi ? Parce que l'impact carbone du magasin...
Même si je suis livré en camion, même si à un moment, il y a un camion qui rentre dans la danse.
Absolument. Parce qu'en fait, vous allez vous déplacer à pied dans un magasin, mais ce magasin-là, il est chauffé, réfrigéré, climatisé toute l'année, et ça représente un coût carbone et que nous, on absorbe en fait avec un entrepôt partout en France.
Et tout ça, ça consomme de l'énergie. Lucien nous appelle de Savoie. Bonjour Lucien.
Bonjour.
Vous êtes dans la filière bio, c'est ça ?
Voilà. C'est
qu'est-ce que vous faites ?
On fait de la transformation de graines de chanvre, entre autres. Et donc on achète la matière première qui est certifiée bio, mais à chaque fois qu'on va la transformer, on doit payer un label, alors qu'on n'est pas subventionné, alors qu'on ne pollue pas, alors que les autres qui polluent, ils n'ont pas à noter ce qu'ils mettent comme produit chimique, et puis et à dire qu'ils polluent justement.
C'est quoi votre label ?
Nous, c'est Écocert en question.
Écocert, donc ouais. Et vous payez combien par an à Écocert ?
On doit payer dans les 1200, 1500 euros.
D'accord.
En tout, ce qui fait que pour une petite structure, pour nous, c'est considérable.
Mmh. Vous distribuez, vous revendez à des magasins bio, c'est ça ?
Voilà, sur des Biocoop, Satoriz, et puis des magasins indépendants dans notre région.
Donc,
exclusivement à 150 km de chez nous pour éviter justement les déplacements et trop de pollution.
Donc ce que vous ne comprenez pas, c'est d'avoir à payer le label, en fait.
Bah oui, pour dire qu'on ne pollue pas, on paye alors que les autres, ils payent rien et ils polluent. Et ça, sans même préciser les produits chimiques qu'ils utilisent. Mmh.
Merci Lucien pour votre témoignage. Réaction Lucas Lefebvre sur ce
moi question. Je partage tout à fait l'agacement de Lucien. En effet, on marche un petit peu sur la tête dans notre société où en fait ce sont ceux qui font les choses bien, qui ne mettent pas de pesticides, qui essaient de respecter l'environnement, qui doivent payer pour avoir un label. Idéalement, il faudrait que ce soit les entreprises, les agriculteurs qui sont dans le conventionnel, qui épandent des pesticides, qui devraient payer justement pour vérifier les pesticides qu'ils mettent. Malheureusement, c'est pas le cas. Et l'avantage d'un label, en fait, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Sans label, en fait, on ne peut pas être certain que ces produits ne contiennent pas de pesticides chimiques. Donc, c'est un petit peu l'assurance qu'il y ait quelqu'un qui vienne contrôler tous les ans. Donc, nous, par rapport, par exemple, à la fourche, on paye aussi les labels qui vérifient que dans les produits qu'on transforme, on fait beaucoup de vrac, par exemple, qu'on réensache dans des petits sachets Kraft, ils vérifient que la matière première est bien bio. S'il n'y a pas de contrôle, on peut tout à fait mentir et donc mentir aux consommateurs.
Vous commercialisez sous votre marque aussi, il y a aussi des produits, la fourche qu'on peut acheter. Vous faites appel à des transformateurs comme Lucien qu'on a entendu à l'instant ?
Tout à fait.
Pour faire ces produits-là, c'est pas vous qui les transformez ?
On travaille avec des producteurs en marque blanche, donc qui apposent nos étiquettes sur leurs produits. On les sélectionne avec beaucoup de soin. On est aussi, on est transformateur nous de vrac, ça veut dire qu'on est le plus gros distributeur de vrac bio en France, en ligne. On écoule des tonnes, par exemple, d'amandes bio chaque mois. Donc on a construit une machine spécialement pour ça. Mais voilà, on a une marque propre, hein, on a 500 produits de la marque La Fourche qu'on a co-créé avec nos adhérents. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on lance un nouveau produit, il y a un questionnaire sur notre site où on détaille un petit peu les éléments du cahier des charges, quelle est l'origine de production du produit, quel est le type d'emballage, est-ce que le type de production est plus respectueux ou pas de l'environnement. Les consommateurs peuvent voter sur chacun de ces éléments et ils voient le prix varier et aussi l'impact carbone. C'est une dimension très importante qui permet de faire beaucoup de pédagogie et de faire prendre conscience à nos consommateurs de l'impact de leur choix.
J'ai regardé un peu les prix sur votre plateforme et puis chez vos concurrents. J'ai noté à peu près 3 euros d'écart sur le litre d'huile d'olive provenance espagnole, 30 centimes d'écart sur une plaquette de beurre, 250 grammes, donc vous êtes 30 centimes moins cher. Même chose sur le kilo de pommes, 3 euros chez vous, 60 centimes de plus chez vos concurrents. Est-ce qu'il n'y a pas quand même la tentation, quand on cherche le prix le plus bas, de pressurer les producteurs et de leur dire bah non, moi là je peux pas aller à 4 euros le kilo de pommes, donc il faut que je le vende à 3, donc c'est à toi de faire l'effort et pas à moi.
Tout à fait. Bah, nous, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas faire et ce qu'on se refusera toujours de faire. Les gains qu'on propose, les économies qu'on propose à nos adhérents, comme je le disais, c'est des économies sur le marketing, donc des sous qui ne partent pas chez les Meta et les Facebook. Et c'est aussi des gains qui sont faits sur notre sélection de produits. Nous, on se voit plutôt comme un sélectionneur qu'un distributeur. Ça veut dire qu'il faut absolument avoir un jus de grenadine et un jus de cassis. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir 10 jus de grenadine différents. En fait, nous, on va sélectionner le producteur le plus qualitatif, qui a les produits qui ont la meilleure qualité, qui sont les méthodes de production les plus respectueuses de l'environnement. Et on ne va pas le mettre en concurrence avec d'autres producteurs. Donc, on va concentrer nos achats auprès de ce producteur sans le pressuriser. Et en fait, on a un effet volume, on a plus de volume avec ce producteur-là, donc on peut avoir accès à des tarifs qui sont intéressants.
On parle quand même d'une niche, hein. Je crois que c'est 5% le volume de la consommation alimentaire en France qui est bio. La clé pour développer, parce que il y a aussi un impact évident sur la santé, quel est-il, Lucas Lefebvre ? C'est forcément le prix, c'est avoir des prix plus bas qui permettra d'élargir cette toute petite fenêtre, 5% pour l'instant.
Alors quand on regarde, quand on demande aux consommateurs, il y a 70% des Français qui consomment au moins une fois bio par mois, mais ça reste très anecdotique et le premier frein, c'est le prix. Donc nous, on a fait le pari de proposer un mode de distribution qui est plus économe, sur le marketing, je l'ai dit, qui choisit des produits qui sont un peu plus gros format et du vrac pour pouvoir économiser. On fait des produits anti-gaspille aussi. Et donc on propose ces produits qui sont moins chers et en fait, les gens viennent chez nous pour le prix et les gens restent pour l'engagement. On fait énormément de choses en termes d'engagement. On va proposer des produits qui sont plus qualitatifs que ce que vous allez avoir en bio en grande surface. Et donc, ils comprennent la démarche dans laquelle on s'inscrit. Ils en apprennent un peu plus sur les méthodes de production et en fait ils restent à la fin, pas parce que c'est moins cher, ça l'est pourtant, hein, mais parce qu'ils ont vraiment compris l'importance de mieux consommer à la fois pour leur santé et pour leur environnement.
Christelle nous appelle de Paris. Bonjour Christelle.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, excusez-moi. Oui, alors je disais que je comprenais l'intérêt de la fourche dans les campagnes, mais ne pense-t-il pas qu'il fait concurrence avec les magasins bio dans les villes et grandes villes, étant donné qu'ils ont des loyers à payer.
Merci Christelle pour votre témoignage. Est-ce qu'on ne va pas accélérer encore la fermeture de commerce physique avec le commerce en ligne que vous pratiquez ?
Alors nous, on est très copains avec les magasins bio, on travaille main dans la main avec eux. On a fait une étude auprès de nos consommateurs et en fait, 80% de nos adhérents n'avaient jamais mis le pied dans un magasin bio auparavant. Donc on parle vraiment à des gens qui vont en grande surface principalement. Nous, on se bat contre la GMS, les grandes surfaces, les supermarchés. Et au contraire, on veut générer plus de pouvoir d'achat auprès des consommateurs pour qu'ils aillent davantage dans des petits magasins de proximité, chez leur boulanger, chez leur fromager, chez leur charcutier, et qu'ils puissent consommer des produits locaux de qualité. Et nous, on assure en fait les produits nationaux à un prix qui bat toute concurrence.
Mais vous avez cofondé La Fourche il y a 8 ans. Malgré vos 150 000 adhérents, vous n'êtes pas rentable.
Non, parce que c'est un business de volume et on se bat encore une fois contre des mastodontes qui pressurisent les producteurs, ce que nous on se refuse à faire. Donc voilà, on a quand même des coûts qui sont importants et c'est pour ça qu'il faut qu'on convainque le plus de monde possible pour pouvoir
réussir. Mais c'est quoi le bon volume ?
Alors là, on a fait une levée de fonds récemment, on sera rentable d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et l'idée, c'est que chaque gain ensuite de marge supplémentaire, ce soit des économies supplémentaires pour notre communauté.
Il y a tout un débat, ce sera ma dernière question, Lucas Lefebvre, en ce moment, sur entreprendre. En France, il y a quelques jours, le fondateur de Ledger, société de portefeuille de crypto-monnaie, autre secteur d'activité, Éric Larchevêque, disait maintenant, quand je croise des jeunes entrepreneurs, je leur dis, si vous avez la possibilité, il vaut mieux partir de France. La situation est déplorable, elle ne va pas s'améliorer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez cofondé La Fourche il y a 8 ans maintenant ?
Alors moi, je m'inscris en porte-à-faux complet avec ce constat. Je pense que la France est un magnifique pays pour entreprendre. On a énormément d'aides à l'entrepreneuriat. La BPI joue beaucoup. Il y a énormément de... Enfin, moi, j'ai bénéficié du chômage pendant 2 ans pour monter mon entreprise, comme mes cofondateurs. Donc, on a plein de dispositifs pour aider à l'entrepreneuriat en France. Et surtout, on est un pays où il y a des infrastructures qui fonctionnent, des gens qui sont bien formés, des talents qui sont excellents, qui nous sont enviés dans le monde entier. Donc non, la France est un magnifique pays pour entreprendre.
Des impôts pour les entreprises qui sont au bon niveau ?
Alors les impôts, on peut discuter du montant des impôts qui peuvent être baissés ou quoi, mais la réalité c'est qu'il faut regarder tout ça comme un écosystème. Oui, on a des impôts en France, mais on a aussi un système social qui fonctionne très bien. Donc en fait, on a des salariés qui sont contents, on a des salariés qui sont en bonne santé, on a des salariés qui sont bien formés. Donc en fait, on ne peut pas tout avoir, quoi. Et c'est tout ça est un système global. Et donc moi, je pense que la France est un magnifique pays pour entreprendre, et j'en suis la preuve. Et Monsieur l'Archevêque en est aussi la preuve, puisqu'il a monté son entreprise en France.
Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Lucas Lefebvre, cofondateur du magasin bio en ligne La Fourche. Merci à vous tous qui nous avez appelés également. 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Nous suivons depuis lundi la pizza ambulante de Thibaut Metz dans les Vosges, baptisée la pizza du papa. Thibaut a 30 ans, il s'est lancé il y a un peu plus d'un an avec sa remorque équipée de 2 fours. Et aujourd'hui, nous le retrouvons à Aigle, 300 habitants, où se tient ce jour-là un marché des producteurs. Et c'est justement cet événement qui lui a permis de démarrer son aventure.
Alors du coup, on est au Voie d'Aigle sur le marché des communautés de communes. Donc c'est un petit marché avec des producteurs locaux, des artisans qui viennent. Tout est fait maison. Et il faut savoir qu'il y a un an de ça, le 7 juin précisément, c'était un mardi soir, j'étais sur le premier à Darnay. Et c'est là que la pizza du papa a démarré. C'était la course, le frigo avait marché, il y a un four qui marchait pas. Le camion n'était pas floqué, j'étais pas connu. J'avais fait 120 pizzas, il y avait une queue de 45 minutes devant. Et on s'en souvient, ouais.
Bonsoir, je m'appelle Guillaume Fournier, j'ai été chef de cuisine donc pendant 25 ans. C'est dans ce cadre d'ailleurs que j'ai connu Thibaut. Il était au collège, il était en SECPA, donc comme en SECPA on fait plusieurs stages. Ça s'est pas trop mal passé, on va dire qu'il était encore un peu jeune, il savait pas trop ce qu'il allait faire. Je pense pas que c'était la grosse motivation pour ça à ce moment-là. Donc on a eu... pas des mots, mais fallait lui dire qu'il avait besoin de se faire recadrer un petit peu, quoi. Parce que c'est un métier de rigueur. La preuve, maintenant, il sait carrer tout ce qu'il fait. J'aime assez les jeunes dans son genre. On sent qu'il y a quelque chose. Il a une petite étincelle. Et ça, des fois, on arrive peut-être des fois à le déceler.
Là, on aura la ferme de Fontenelle où je travaille leur fromage. Il y a la bière que je travaille aussi là-bas. En final, il y a tout pour faire ses courses ici.
Donc voilà, Gaël.
Salut, ça va?
Voilà un petit sac. Alors, combien de tomates, combien de kilos vous voulez? Je fais un mélange, elles sont toutes au même prix. Alors Gaëlle Thomas, moi je suis productrice de légumes bio à Enzel depuis 2 ans, donc c'est ma 2e année d'installation. La vente que j'ai fait avant la création de la pizza, les clients m'ont dit je vais aller acheter la pizza parce que je sais que c'est vos légumes, donc vraiment il y a une dynamique qui se crée et ça c'est génial.
Alors moi je m'appelle Ingrid Colnay, je travaille à la commune de Darnay, 1000 habitants. À Darnay il y avait jusque dans les années 80 une fromagerie qui fabriquait le Caprice des Dieux. Et le Caprice des Dieux a quitté Darnay pour ne s'installer qu'en Haute-Marne, à Iloud. Donc on a perdu des emplois et on a perdu des habitants. Et à l'image de toutes les Vosges, Darnay vieillit.
Bonsoir, je m'appelle Carole Thiébault, je viens de Levallois, je suis vice-présidente à la communauté de communes des Vosges côté sud-ouest, en charge des services à la population, des associations et de la santé. Ce qui fait un petit peu la plus-value, j'allais dire, de notre territoire, c'est le tissu social, la convivialité, la solidarité et puis le bien-être parce qu'on a une qualité de vie qui est particulièrement intéressante. Alors on dit souvent pour rigoler qu'on a 3 gros bovins par habitant, mais c'est une réalité puisque j'ai interrogé la chambre d'agriculture et c'est vraiment ça, on a plus de vaches que d'habitants, mais après vous voyez les gens sont contents de se rencontrer, de se recevoir. Ce qu'on arrive à démontrer aujourd'hui, c'est que la ruralité n'est pas morte. Alors on a un plan de communication qui a été fait en amont au sein de la communauté de communes qui est particulièrement riche et on a indiqué déjà depuis longue date tous les marchés qui allaient se dérouler et en fait on s'aperçoit que de fil en aiguille les gens nous suivent. Et ça, c'est chouette parce qu'on permet à des habitants, par exemple, de Hècle, d'aller découvrir la prochaine fois Châtillon-sur-Saône, qui se situe à peu près 50 km d'ici, alors qu'on est finalement issus de la même communauté de communes.
Les gens prennent la voiture, font les kilomètres,
bien sûr.
Mettent de l'essence.
Et mettent de l'essence.
Thibaut Metz, la pizza du papa, à la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mercredi 13h50, le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Et aujourd'hui, Éric, vous vous demandez si les juges ont eu raison de condamner Nicolas Sarkozy à de la prison ferme.
Oui, Jérôme, l'information a été beaucoup commentée la semaine dernière et elle le sera encore quand la décision sera effective. On imagine les images, les propos, les indignations ou les approbations. Un ancien président de la République dormira bientôt en prison. Il ne fait aucun doute que les agissements de Nicolas Sarkozy pendant la campagne électorale, qui le vit remporter la course à l'Élysée en 2007, étaient graves et à ce titre répréhensibles. La justice se devait de passer. On ne peut se réclamer de la République, de sa promesse d'égalité, si le premier d'entre elles se joue des principes en toute impunité. L'exemplarité d'un président est une règle cardinale à laquelle nul ne saurait déroger. Tout cela est juste, tout cela est vrai. Mais d'où vient alors que cette décision des magistrats d'envoyer l'ancien chef de l'État derrière les barreaux heurte l'esprit et instille dans nos esprits une certaine inquiétude.
Cette décision vous interroge.
Oui, Jérôme. Comme le disait Romain Gary, la réponse est parfois le malheur de la question, à quoi Milan Kundera opposait d'ailleurs qu'un roman n'avait pas réponse à tout, mais question à tout. Mmh. Alors, nous ne sommes pas dans un roman, mais aujourd'hui, en effet, ma chronique est moins destinée à vous apporter des réponses qu'à vous, qu'à nous questionner. Ce qui arrive à l'ancien président est inédit sous la Ve République. En regardant autour de nous, j'ai pensé à l'Italie, plus précisément à l'opération Manipulite, et autrement dit main propre, qu'engagèrent quelques magistrats au début des années 90. Un coup de torchon spectaculaire dans la classe politique qui eut pour effet d'atomiser les grands partis historiques de la péninsule, la Démocratie chrétienne de Giulio Andreotti et le Parti socialiste de Bettino Craxi principalement. C'est aini que surgit le regrettable Silvio Berlusconi qui préfigurait les fascistes ou quasi de la Ligue du Nord, tel Matteo Salvini, remis au premier plan avec l'avènement de la Meloni, dont la popularité ne fait pas oublier ses positions extrêmes.
Mais qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement, Éric ?
Que l'enfer est pavé des meilleures intentions. Je ne vais pas crier au gouvernement des juges, ni emboîter le pas aux CNewseries de la télé Bolloré, prompte à dénoncer sans nuance le procès politique fait à l'ex-président, condamné pour association de malfaiteurs, je le rappelle, dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. Je crains, en revanche, l'effet symbolique de cette décision, comme si la démocratie était elle aussi jetée en prison, victime collatérale des agissements de Nicolas Sarkozy. Ce qui est en jeu, c'est un abaissement de nos institutions. Un abaissement de la fonction présidentielle que l'ancien maire de Neuilly avait déjà bien provoqué dans l'exercice de ses fonctions. C'est cette perte de confiance qui sape les piliers de la démocratie et ouvre la voie au triomphe à front étroit du populisme.
À la une du 1 Hebdo cette semaine.
Nous nous demandons si par hasard demain, nous ne serons pas tous immortels, cher Jérôme. Non pas à la manière de Poutine ou de Xi Jinping récemment.
Qui ils en voyaient, ont parlé ensemble.
Voilà, ils en ont parlé, ils se voyaient en dictateur.
Pas tout à fait.
Peut-être en dictionnaire, c'est sûr. En dictateur jusqu'à 150 ans. Mais en explorant les 6 fantasmes de l'immortalité, par exemple, comment rajeunir pour de bon. Presque aussi excitant que les 7 péchés capitaux, et en vous éclairant sur les voies pas si impénétrables du rajeunissement. Alors demain, tous immortels.
Le 1 Hebdo cette semaine, j'ajoute le dernier numéro de Légende consacré à Robert Badinter à une semaine de la panthéonisation de l'ancien garde des Sceaux. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler ensemble. De C'est la France à C'est une chanson. C'est la chanteuse Rosemary Stanley qu'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
On l'a découverte avec le groupe Moriarty. Elle mène en parallèle de nombreux autres projets, notamment avec la violoncelliste Dom La Nena. Toutes les deux forment le groupe Birds on a Wire. Elles sont en concert de ce soir à dimanche sur la scène du Théâtre du Rond-Point à Paris. Et c'est une chanteuse américaine de folk que Rosemary Stanley a souhaité qu'on écoute. Il s'agit de Peggy Seeger.
En fait, elle a fait un recueil de chansons quand elle était très jeune, qui a été une référence pour des chanteuses comme Joan Baez, Judy Collins. Elles ont fait un peu le début de leur carrière, toutes ces chanteuses, en reprenant des chansons qui étaient sur ce disque, plus ou moins de référence, qu'elle a enregistrées quand elle avait quelque chose comme 19 ans, et qui étaient sans prétention. Elle le dit elle-même qu'elle n'avait pas une voix aussi spectaculaire que celle de Joan Baez. Mais ce qu'elle avait, c'est qu'elle avait cette capacité à écrire des textes drôles, des textes engagés. Elle a écrit des textes dans les années 60 féministes qui sont encore vraiment d'actualité, qui sont vraiment super. When I was a little girl, I wished I was a boy. I tagged along behind the gang and wore my corduroys. Everybody said I only did it to annoy, but I was gonna be an engineer. Mama told me, can't you be a lady? To make me the mother of a pearl. Wait until you're older, dear, and maybe you'll be glad that you're a girl. Dainty as a Dresden statue, gentle as a Jersey cow, smooth as silk, gives creamy milk. Learn to coo, learn to moo. That's what you do to be a lady now.
Alors, cette chanson de Peggy Seeger, Frédéric, s'intitule « I'm gonna be an engineer ».
Autrement dit, je vais devenir ingénieur. C'est le récit du parcours d'une femme, un parcours longtemps contrarié. Rosemary Stanley aime énormément cette chanson.
C'est l'histoire d'une petite fille qui veut, depuis qu'elle est enfant, être ingénieure. Sa mère d'abord dit « Non, tu seras mère au foyer comme moi ». Bon, et puis ensuite elle va en école de dactylo, et en école de dactylo on lui dit non, tu ne seras pas ingénieur, tu seras mère au foyer comme tes comparses. Et ensuite elle rencontre son compagnon, elle finit par devenir ingénieure, mais elle tombe enceinte, elle accouche de jumeaux, et là c'est pareil, son mari lui dit bah écoute, c'est ton devoir de rester auprès de tes enfants. Voilà. Et finalement, au bout d'un moment, elle se retrouve du coup à devenir ingénieure, et elle est très heureuse comme ça.
Elle réussit finalement.
Elle réussit, oui.
À accomplir son rêve.
Voilà. You owe it to the kids to be a lady. Dainty as a dish rag, faithful as a child. Stay at home, you got to mind the baby. Remember you're a mother now. Ce qui me touche, c'est que ça part de l'histoire d'une petite fille, justement, qui rêve de quelque chose qui n'est pas forcément possible, en tout cas à son époque, et que tout le monde pointe du doigt et lui dit que ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa place, en fait. Et elle garde cette idée en tête, elle a quelque chose comme ça de très volontaire. Donc ça, ça me touche. Et puis, peut-être de se dire qu'aujourd'hui, finalement, les femmes peuvent faire absolument presque tous les métiers qu'elles veulent, mais que c'est jamais complètement toujours gagné, et que je pense que c'est bien aussi de montrer des modèles à des places où on est moins habitué à voir des femmes. Et voilà, de montrer que ça existe et de continuer à les montrer. Ah, but now the times are harder and me Jimmy's got the sack. I went down to Vickers, they were glad to have me back. But I'm a third class citizen, my wages tell me that. And I'm a first class engineer. The boss, he says, we pay you as a lady. You only got the job cause I can't afford a man. With you I keep the profits high as maybe. You're just a cheap repair.
Vous avez rêvé un temps d'être ingénieur ?
Pas du tout. Moi, je voulais être marin et parcourir les mers.
Et on vous disait quoi quand petite, vous disiez « je veux être marin » ?
Non, on m'a plutôt dit « tu feras ce que tu auras envie de faire, mais tu passes ton bac. » Voilà.
Et après le bac, l'idée de devenir marin vous est passée ?
Bah après, j'ai fait des arts plastiques, donc j'ai un peu vogué, on va dire. Mais j'avais toujours la musique avec moi. Donc finalement, je suis quand même beaucoup en tournée, donc je ne suis pas beaucoup sur les mers, mais je voyage beaucoup quand même.
Votre fille, elle veut faire quoi comme métier plus tard ?
Géologue. Enfin, c'est ce qu'elle dit.
Elle a quel âge ?
Elle a 9 ans. Moi, je suis très contente.
I'm gonna be an engineer. Peggy Seeger, c'était Frédéric, le choix de Rosemary Stanley.
Rosemary Stanley que vous pouvez retrouver cette semaine au Théâtre du Rond-Point à Paris pour une série de concerts avec la violoncelliste Dom Lanena.
Et vous Frédéric, je vous dis à demain.